I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Positron, un épisode qui va être Positron Ultimate, parce que ça va être vraiment le positif et le feel-good Positron qui va vous donner des recommandations à regarder, à lire et à écouter, de trucs vraiment sympas qui donnent la pêche, qui sont cool. Je suis Patrick Béja, et dans cette émission, je vous donne tous les quelques temps des recommandations de produits culturels assez cool que vous apprécierez, j'en suis certain. Et on va commencer immédiatement avec une série dont vous avez peut-être entendu parler, possiblement, mais que vous n'avez sans doute pas regardé, possiblement parce que c'est une série qui n'est pas disponible pour vous, parce que c'est une série qui est sur Apple TV+. Quand je dis pas disponible, peut-être que vous n'avez pas d'abonnement à Apple TV+. En même temps, je crois qu'Apple distribue les abonnements Apple TV+ gratuitement pour tous ceux qui achètent du matériel de leur marque. Donc peut-être que vous aurez accès quand même malgré tout, que vous n'avez jamais lancé. Eh ben, je peux vous dire qu'il y a des séries cool sur Apple TV+, mais Ted Lasso, c'est possiblement la meilleure. Alors, la meilleure comment ? C'est pas la meilleure, la mieux réalisée, la plus profonde, la plus époustouflante, mais c'est juste la série la plus bienveillante que j'ai vue depuis très longtemps et la série qui vous fait vous sentir bien d'une manière que, encore une fois, j'ai jamais vue dans les séries télé. Alors, c'est une série dont le thème, finalement, importe pas énormément, mais que je vais quand même détailler. C'est un coach de football américain d'une petite équipe qui se retrouve en Angleterre à coacher une équipe en danger dans la première ligue, et qui connaît pas grand-chose au football. Alors, vous allez vous dire, ok, c'est une comédie, c'est un petit peu cocasse, c'est genre, haha, il dit des bêtises sur le football en pensant au football américain. Oui, ok, ça arrive de temps en temps. Mais c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important, c'est que le personnage de Ted Lasso, qui est joué par Jason Sudeikis, que je connaissais pas vraiment, il est donc joué par Jason Sudeikis et il produit aussi, si je ne m'abuse, la série. Eh ben, le personnage, il est bon. Je trouve pas d'autre moyen de le décrire. Il est bon, c'est une bonne personne. C'est une personne qui est pas bien ou qui est gentille ou qui est intelligente. Il est toutes ces choses aussi, mais il est bon. Et je me rends compte qu'on n'a jamais vraiment vu de personne qui soit bonne au sens du presque biblique du terme. C'est une personne qui est prévenante, avenante, qui est prête à aller vers les autres, à comprendre leurs fautes, leurs erreurs. Et ça ne veut pas dire qu'il est mièvre ou qu'il est cucu ou qu'il est naïf. C'est pas du tout ce genre de stéréotype. C'est pas qu'il est, l'entourlouper facilement ou pas du tout. C'est un mec qui est intelligent, c'est juste qu'il a une nature et une philosophie de vie qui sont un petit peu la chose qu'on pourrait à laquelle on pourrait espérer arriver dans notre vie à nous. C'est l'idéal d'une attitude dans le monde, vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a beaucoup de noirceur dans le monde, peut-être plus aujourd'hui qu'avant, on va en reparler dans un petit moment. Et dans ce contexte, je pense qu'une série comme ça peut vraiment faire du bien. Alors le personnage, il est bon, mais toute la série à côté est cool. Et c'est difficile à décrire parce que, comme de la même manière que le personnage n'est pas défini par les canons habituels des personnages de séries télé, la série elle-même est difficile à classer. C'est pas une comédie, c'est pas un drame, c'est pas une série d'action. Alors, c'est certainement pas une série d'action, c'est un peu une comédie, bien sûr, c'est un peu une comédie dramatique, un petit peu, dans certains aspects, mais c'est pas ça qui définit la série. La série, c'est une série feel good, j'ai l'impression. C'est comme ça qu'on peut le mieux la caractériser. Et pas feel good dans le genre, ah, c'est sucré, c'est mièvreux, c'est mièvre, pardon, c'est dégoulinant. Non, non, pas du tout. C'est pas des petits chatons et des licornes qui sautent partout en s'amusant avec des arcs-en-ciel, même si ça serait peut-être intéressant aussi. Mais c'est pas du tout ça. Ça va pas être frustrant de gentillesse. C'est pas naïf, encore une fois. C'est juste... ça vous donne un sentiment à l'intérieur de votre corps et de votre cœur d'espoir, d'espérance, de bienveillance. Et plus d'une fois, je pense, vous regardez la série et vous vous mettez à sourire, pas parce qu'il y a un truc drôle qui s'est passé, même si, encore une fois, il y a beaucoup de trucs drôles qui se passent dans la série, mais pas parce qu'il y a un truc drôle qui s'est passé, mais parce que c'est un truc... Bah ouais, je trouve que ce mot, un truc... bon qui s'est passé et qui vous fait chaud au cœur. Voilà, c'est une série qui fait chaud au cœur. C'est ça sa caractéristique principale. Et encore une fois, c'est pas qu'on vous assène le sentiment avec une massue sur la tête. C'est subtil, c'est délicat comme série, mais c'est assez unique. Et avant d'arriver à ma conclusion, il y a un autre truc dont je voudrais parler, c'est qu'il y a trois personnages principaux dans la série. On suit leur parcours et il y a une galerie de personnages un petit peu plus large, mais à la fois les trois personnages principaux et les personnages secondaires sont tous bien écrits, intéressants, attachants et ils ont une personnalité et un caractère qui sont rafraîchissants dans ce genre de série. C'est rare de voir des personnages écrits comme ça. Je pense en particulier à l'un des personnages qui s'appelle Killy, qui est, je sais pas, la manière dont les femmes sont écrites, on en parlait avec ma femme, la manière dont les femmes sont écrites est assez unique. J'ai jamais vu et c'est bizarre parce qu'elles sont naturelles, elles ont leur personnalité, elles ont du caractère. Mais j'ai jamais vu des femmes écrites de cette manière, des femmes fortes écrites de cette manière, dans un contexte de... C'est pas des espions qui vont aller chasser Al-Qaïda, vous voyez, c'est juste des gens normaux qui ont des préoccupations normales. Bref, je vais pas vous en dire plus. J'ai déjà dit beaucoup. C'est vraiment une série qui est possiblement la plus cool de cette année. Il y a pas mal de séries cool cette année, mais c'est l'une des séries certainement les plus cool, et je vous la recommande... Du fond du cœur, je pense que si vous en avez entendu parler et que vous avez entendu qu'elle est cool et qu'elle est sympa, etc., je vous le confirme, c'est bien le cas, c'est vrai, et je vous encourage à aller la regarder. C'est Ted Lasso et ça vaut largement le détour. Alors, on passe maintenant au livre dont je voulais vous parler, qui s'appelle Factfulness et qui existe en français. Je vais juste vérifier le titre en français avant de continuer, parce que je suis assez sûr qu'il existe en français, mais il doit avoir un sous-titre. Factfulness, penser clairement, ça s'apprend. C'est un peu trompeur comme titre. Et c'est difficile peut-être à mettre sur une couverture le sujet du livre, mais on pourrait penser que c'est un livre de self-help, un truc un petit peu américain où on se dit « Ah, c'est un truc pour les gens qui sont un petit peu perdus et qui va leur donner des trucs dont moi j'ai pas besoin ». C'est pas vraiment ça, en fait. Factfulness, c'est un livre qui a été écrit par Hans Rosling et ses enfants. Hans Rosling, je suis sûr que vous en avez entendu parler. C'est un type qui avait fait un TED Talk en 2006 avec des statistiques et des statistiques animées. Et si vous l'avez vu, je pense que vous l'avez jamais oublié. C'est d'une part aller chercher ce TED Talk de Hans Rosling, H-A-N-S-R-O-S-L-I-N-G, Hans Rosling. Aller chercher ce TED Talk, il est fascinant, comme beaucoup de TED Talks. Mais C'est donc lui qui a écrit ce livre, et c'est un statisticien, c'est un, mais plus qu'un statisticien, Hans Rosling, c'est un chercheur qui étudie les choses avec des faits, d'où le titre Factfulness, le fait de considérer les choses en fonction des faits. Et il regarde le monde avec des données statistiques avérées, établies, qui lui donnent une vision claire et objective de la réalité. Et dans un monde où, un petit peu comme tout à l'heure, je disais, dans un monde où aujourd'hui on a, je crois, trop peu d'objectivité et beaucoup de discours partisans et orientés, eh ben, le fait de regarder le monde avec objectivité, c'est quelque chose de précieux. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui est, vous aide à... c'est une chose qui, moi, en tout cas, m'a infusé de positivisme. Pas parce que le livre explique que tout va bien, c'est pas ça, mais il explique d'une part que tout va pas mal, et il explique que ce qui va mal, peut-être qu'on peut trouver des solutions, mais il faut qu'on agisse. Et c'est pas, là encore, un livre où l'auteur va essayer de dépeindre un tableau rose du monde et dire oh, « en fait, tout va bien, regardez, il y a ça, il y a ça ». Pas du tout. Mais il regarde les faits. Et pour comprendre les choses, pour savoir là où il faut agir et surtout comment il faut agir, ce qu'il faut faire, eh ben, il faut comprendre la réalité de la situation, sinon on prend les mauvaises décisions. Et on a vraiment tendance à ne pas comprendre la réalité de ce qui se passe. Pourquoi il explique nos instincts de survie qui font qu'on va comprendre les choses avec un biais qui va dans tel ou tel sens. Il détaille plusieurs de ces instincts, explique en quoi ça influence notre perception des choses et la manière dont on peut essayer de ne plus être victime de ces instincts qui sont importants et utiles parfois, mais qui aussi parfois nous font mal comprendre les choses. Il divise le monde entre quatre catégories de revenus et explique la réalité du quotidien de ces quatre catégories de revenus. Il commence à moins de $2 par jour, entre 2 et 8 dollars par jour, puis 8 à $32 par jour, et puis plus de $32 par jour. Et il explique la réalité de tous ces toutes ces catégories de revenus qui définissent un petit peu les styles de vie qu'ont les gens dans le monde. Et là encore, c'est hyper intéressant parce que, et c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup étudié, enfin c'est vraiment une personne à laquelle on peut faire confiance, et c'est intéressant parce que ça nous montre le monde d'une manière qu'on ne connaît pas, d'une part avec la manière dont ils... Enfin, leur vraie préoccupation. Une personne qui va gagner $8 par jour n'a pas les mêmes préoccupations qu'une personne qui va gagner $2 par jour, etc., etc. Et d'une part, c'est éducatif parce qu'on comprend ça et on comprend aussi pourquoi les notions de pays développés et pays en voie de développement n'a aucun sens, n'a plus aucun sens aujourd'hui, même si on l'a beaucoup appris à l'école et ailleurs et qu'on l'utilise encore beaucoup, ça n'a pas de sens. Et surtout, comme je le disais, il explique tout ce qu'on a fait pendant ces dernières 100 ou 200 années et la manière dont les choses ont évolué d'une façon vraiment surprenante et à quel point notre vision des choses est biaisée. Tous. Et la manière dont j'en parle, je crois qu'on parle beaucoup de théories de conspiration, de vous savez, que ça soit les QAnon, les gens qui veulent pas se faire vacciner, les trucs sur la 5G, les trucs sur le Covid, etc. Et on regarde les gens qui croient à ces choses-là et on dit « Oh ! Non, mais vraiment, ces gens-là, comment est-ce qu'ils pourraient croire tout ça ?» Le truc, c'est que nous, tous, collectivement, nous tous qui sommes respectables et qui ne croyons pas à ces bêtises, nous sommes victimes tous de la plus grande théorie de la conspiration qui soit, et elle nous est imposée par nous-mêmes. Cette théorie de la conspiration, c'est l'idée que le monde va moins bien qu'il y a X années, mettait en fait un petit peu que dans notre jeunesse, ou qui a 20 ans, ou qui a 30 ans, ou qui a 50 ans. Et c'est vraiment, j'aimerais que vous y pensiez de cette manière, c'est une théorie de la conspiration. Tout ce que vous allez dire sur les gens qui croient qu'il ne faut pas se faire vacciner, et vous leur montrez la réalité objective des faits, et ils vous disent « Ah non, non, c'est n'importe quoi, moi je sais bien que ce n'est pas comme ça », et vous dites « Mais comment est-ce qu'il ne peut pas voir la réalité ?» Et je sais que vous, quand je vous dis « Les choses vont beaucoup mieux que ce que vous pensez dans le monde », votre premier instinct, ça va être, pour beaucoup d'entre vous, ça va être « Mais attends, non, c'est bon, attends, je sais bien que les choses vont pas bien, c'est bon, tu vas pas m'embrouiller. » C'est exactement les mécaniques de la théorie, des théories de la conspiration. Et j'aimerais que vous fassiez l'effort d'aller lire ce livre, si vous vous reconnaissez dans cette description. Pas parce qu'il va vous donner une formule magique, mais parce qu'il recentre la compréhension du monde sur l'objectif, sur le factuel. Et encore une fois, j'insiste sur ce point, c'est pas une dépiction du monde qui dit « tout va bien ». Au contraire, il y a des gros problèmes, et c'est vraiment fascinant parce que le livre a été publié, je crois, en 2018, et l'un des gros dangers potentiels dont il parlait, c'était une épidémie de grippe qu'on ne maîtriserait pas. Donc c'est presque prescient, et il le liste parmi, c'est l'un des dangers parmi 4 ou 5 qui sont très réels et auxquels il faut, et bien sûr il y a le changement climatique là-dedans, mais c'est pas les seuls, et auxquels il faut qu'on s'attaque. Donc il n'est pas en train de dire « tout va bien », il est en train de dire « tout ne va pas aussi mal que vous le pensez », et pour comprendre ce qu'il faut faire, là où il faut agir, il faut vraiment comprendre ce qui va bien et ce qui va mal. Je ne vais pas vous faire tous les détails du livre. Vraiment, vraiment, c'est une manière d'appréhender les choses qui est précieuse et qui nous manque énormément dans le monde, je pense, aujourd'hui, et qui, en plus de ça, moi, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, qui vous donne de l'espoir. Moi, je l'ai lu au milieu du foutoir d'il y a 2 ou 3 semaines des élections américaines. Et je me disais, j'ai besoin d'un truc qui soit un petit peu grounded, qui soit un peu solide, sur lequel je puisse me reposer. Donc, je vais lire ce livre que j'avais sur ma liste, Audible, je l'ai écouté en fait, pendant ces quelques jours où j'étais un petit peu stressé. Et je pensais que ça allait juste m'aider à rester un petit peu distrait. Mais en fait, non, ça m'a rempli d'espoir pour la réalité des choses. Et je me dis, on peut faire des choses, on y arrive. Et il y a encore des choses à faire et il faut savoir comment les faire. Je me répète un peu, donc je vais m'arrêter là. Ça s'appelle Factfulness et vraiment, j'espère que je vous ai convaincu d'y jeter un coup d'œil. Parce que cette théorie de la conspiration, on en est tous victimes. Plus ou moins, mais on en est tous victimes. Et c'est exactement comme les autres théories de la conspiration que vous critiquez chez les autres. Quand on pense que le monde va mal ou que le monde va moins bien. Et je sais que c'est pas le moment de dire ça, parce qu'effectivement, on a des problèmes, et on a des gros problèmes, et j'en suis tout à fait conscient. Et donc, vous pouvez vous dire « Mais non, quand même. Dites pas « Il faut lire le livre. Ok, Factfulness de Hans Rosling. Et le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est de la musique. Le groupe American Hi-Fi avec l'album American Hi-Fi. C'est un groupe de... comment ça s'appelle ? C'est le pop-punk alternative rock. C'est dans la mouvance de tous ces groupes un petit peu californiens. C'est du punk californien. Un peu plus rock peut-être que ce genre de choses. Mais l'album spécifiquement American Hi-Fi, c'est pas qu'il est positif, cool. Là encore, c'est pas les arcs-en-ciel et les licornes. Mais c'est un truc qui va vous donner la pêche. C'est, bon, ils sont un petit peu passés maintenant. L'album date peut-être début des années 2000, quelque chose comme ça. Peut-être encore moins, 98. Ou 2001, je crois. Je crois que c'est 2001. Et donc, c'est pas, bon, ça marque un petit peu son âge. Mais c'est décemment écrit, c'est pas la plus grande musique que vous ayez entendue de votre vie, mais ça vous donne la pêche, même quand ça parle de sujets tristounes, quand ils se plaignent, parce qu'évidemment ça arrive, hein, ce genre de choses, ça le fait avec énergie et avec pêche. Et je pense que, là encore, en tout cas moi, dans mes goûts récents de ces dernières années, j'ai beaucoup écouté de trucs un petit peu mélancoliques. Ça fait du bien de revenir sur juste un truc péchu qu'on pourrait écouter en faisant du skate dans les années 2000 ou en faisant du roller. Et ça donne vraiment ça vous rebooste en énergie si vous en avez besoin, si vous faites votre heure de jogging quand vous êtes autorisé à sortir de chez vous. Et ben peut-être que c'est un truc à écouter plutôt que le dernier album tristoun à la mode. Je pense que ça pourrait vous plaire quand même. Donc c'est American Hi-Fi et c'est un album de 2001. Voilà, donc je vous rappelle tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Ted Lasso, la série télé sur Apple TV+, Factfulness, le livre de Hans Rosling et ses enfants en livre physique ou alors en livre audio. Moi, je l'ai lu en livre audio, c'était très très bien. Et American Hi-Fi, l'album des années 2000. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.